La grâce a coûté très cher à Jésus-Christ. Et ne faisons pas de cette grâce un prétexte pour vivre n'importe comment. C'est le message que j'ai à l'Église et le message que je m'applique d'abord à moi, hein, ne vous inquiétez pas. La grâce, si elle est gratuite pour nous, elle n'est pas bon marché. Donc je vais vous passer cette vidéo. Je vous invite à Jérusalem, à l'époque de Jésus. Mais ce n'est pas tellement à Jérusalem que je vais vous inviter, c'est surtout dans le tabernacle. Le tabernacle de Moïse, qui est... vous savez que Moïse n'a pas fait ça comme ça par hasard. Il a, tout ce qu'il a fait sur le tabernacle, il l'avait vu dans le ciel. Et c'est quelque chose de spirituel, même si là c'est une tente. Ce qui est dans le tabernacle est spirituel. Et c'est le plan du salut. En corrélation avec les fêtes juives de l'Éternel et en corrélation aussi avec le passage de l'Exode, la sortie d'Égypte, vous pouvez mettre dans chaque partie quelque chose. David, tu peux commencer la vidéo parce que après on va. Ce à quoi nous sommes destinés. Je ne sais pas si. C'est vrai que la vidéo, là, est moins définie que sur l'ordinateur. Je la mettrai sur le lien sur le site de l'Église. Vous pourrez la regarder comme vous voulez. Alors, la fois dernière, on avait parlé du salut, déjà, on en avait parlé. On a dit que le salut, c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, vous pouvez le lire entièrement, hein, c'est le psaume le plus long de la Bible, il parle de l'importance des commandements de Dieu, d'écouter la parole. Par exemple, au verset 9, 119:9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En observant ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je cherche, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Béni sois-tu Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Je reprends un peu la vidéo. Hein. On avait vu que la parole, vous pouvez la prêcher. Pour ceux qui sont évangélistes, vous le voyez, des fois ça fait plouf. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques à la parole. Et il y en a d'autres, comme on avait vu pour Lydie. Quand Paul parlait, elle a eu le cœur vivement touché. La parole qui éclaire, on le lit dans le psaume 119, toujours au verset 130. C'est ce que j'avais prêché l'autre jour. La révélation de tes paroles éclaire. Elle éclaire quoi ? Notre cœur. Elle donne l'intelligence aux gens simples. Donc, comme on a vu que celui qui reçoit la parole n'est pas forcément sauvé tout de suite, il rentre dans les parvis du tabernacle, il n'est déjà plus à l'extérieur, il n'est plus dans les nations, il commence à rentrer dans l'alliance, dans les parvis. Mais il y a le passage obligé, vous le connaissez, le passage obligé. C'est notre justification en Jésus-Christ. Êtes-vous justifié en Jésus-Christ ? Amen. J'espère que tous ont été justifiés. Ça, c'est une œuvre que nous ne pouvons pas faire. Nous la faisons uniquement par la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. par le moyen de la foi. Après, vous avez vu qu'il y a la cuve des ablutions. Donc, le sacrifice du Messie, c'est nous sommes en Égypte, au pays des servitudes. On est appelé à sortir de ce pays. Qu'est-ce qui a permis de sortir de ce pays ? C'est le sacrifice de l'agneau que l'on mettait sur les linteaux des portes pour nous éviter la dernière plaie la plus grande qui était la mort des premiers-nés. Ça a libéré le peuple, ça a justifié le peuple. Mais est-ce qu'il était libre pour autant ? Il est parti dans le désert et il y avait un nouvel obstacle devant eux, c'est la mer. La mer des joncs, ou la mer de faim, comme on est dit en hébreu. Cette mer, il fallait la traverser, c'est la cuve des ablutions. Ils ont traversé miraculeusement la mer, à pied sec, poursuivi bien sûr par quelqu'un qui ne veut pas qu'on suive Jésus et Dieu. C'est l'image du baptême, c'est ce que dit Paul. Le passage de la mer est l'image de notre baptême, l'image du renoncement à l'ancienne vie, à la vie de l'Égypte. Il y a une chose qui est interdite, c'est de revenir en Égypte. C'est interdit pour le peuple d'Israël, mais c'est aussi interdit pour les chrétiens. Ne revenez pas en Égypte. Après, vous avez vu ce qui s'est passé dans le désert. Ah, en Égypte, on avait les concombres, on avait de la viande, on avait du pain à satiété. Je ne sais pas pourquoi les concombres. Mais enfin, ils avaient des concombres. Hein. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il s'est irrité contre son peuple. Et beaucoup ont péri dans le désert. Parce que penser que l'Égypte, c'était bien, quoi. C'était mieux que la nouvelle vie que Dieu nous propose. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on pense que des fois, le monde, c'est quand même pas mal. Mais ça irrite Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu et ami du monde. On ne peut pas servir de maître. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. On ne peut pas clocher entre deux états, entre je suis sauvé le dimanche et je suis en Égypte la semaine. Après, il nous a fait entrer dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est notre cœur, c'est notre vie intérieure. C'est protégé, vous avez vu, c'est confortable quand même. Hein. On est protégé de la pluie maintenant, on est protégé de la lumière, on est protégé de la chaleur du soleil. À gauche, vous avez le chandelier. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ce lieu saint n'est pas éclairé du tout. On est dans l'obscurité. Que l'Esprit de Dieu éclaire votre cœur. Ce lieu saint, c'est votre cœur, c'est votre vie intérieure. C'est votre vie intérieure. Et il y a quoi dans cette vie intérieure ? À gauche, le Saint-Esprit. À droite, les pains de proposition, la parole de Dieu. Et au fond, la prière. La prière fait monter devant Dieu une agréable odeur. On peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 2. au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Nous sommes un parfum de Christ. Notre vie est un parfum de Christ. C'est pour ça que j'avais mis dans la vidéo notre vie sanctifiée. Mais c'est aussi la prière des saints, vous la connaissez, c'est dans l'Apocalypse 8. Apocalypse 8, il est dit au verset 3. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il y tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Dans le tabernacle, l'autel d'or était devant le voile qui était fermé, devant le lieu très saint. Dans l'Apocalypse, l'autel d'or des parfums est devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un grand tremblement de terre. C'est dans l'Apocalypse, hein. C'est dans le futur. Alors, que dire ? Êtes-vous prêt à aller dans le lieu très saint ? Dans Hébreux 6, il est dit, c'est là notre position. Au verset 18. Non, ce n'est pas verset 18. Verset 19. Enfin, on va lire à partir du 18. Afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme, et elle pénètre au-delà du voile. On n'est pas encore dans le lieu très saint. On est appelé à l'y être. Notre ancre, vous savez ce que c'est que l'ancre ? C'est un grappin, quoi. Vous mettez le grappin dans le lieu très saint, vous êtes fermement attaché à cette espérance, mais ça reste l'espérance. Je vous ai parlé la dernière fois que le salut était en trois phases. La justification, c'est la première, bien sûr, en Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus, par son sacrifice sur la croix, nous sommes justifiés, une fois pour toutes. Mais la justification va avec la sanctification. Une justification sans sanctification est vaine. La justification sans la sanctification est vaine. Et il est dit clairement, dans Hébreux, toujours dans Hébreux 12, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Grâce à sa parole. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est la vérité, et c'est cette vérité qui nous sanctifie. Et c'est cette vérité qui nous libère aussi. La parole de Dieu ne va pas sans l'Esprit Saint. Une parole de Dieu lue sans Saint-Esprit est une lettre morte. Mais l'Esprit Saint ne va pas sans la parole de Dieu. C'est un équilibre qu'il faut avoir. Les prescriptions et l'esprit. Il est dit, je ferai une alliance nouvelle avec mon peuple. Vous le connaissez, Jérémie 31:31. Je ferai une alliance avec Israël et Juda. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. La loi doit être gravée dans notre cœur. On avait vu que... On avait parlé de conviction de péché. Donc la conviction de péché, normalement, se trouve au niveau de l'autel, à l'extérieur. Que le baptême, c'est la mer. On passe après dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé après pour le peuple hébreu ? Bon, ils ont été conduits par Dieu dans le désert. Et Dieu a pris soin d'eux, lui a donné la manne. Il lui a donné quoi? C'est comme un jeune converti. Jeune converti, on est parfois jaloux, les vieux chrétiens, parce que les jeunes convertis, ils prient, pouf, tout tombe par grâce. Vas-y, tiens, ça, tac, tac, toi, tu peux toujours courir. Eux, ça, tout est facile. Tac, 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 tac. Puis un jour, boum, plus rien, maintenant il va falloir travailler. Et c'est ce qui est arrivé au peuple hébreu. Les plaies d'Égypte, ça a été facile. Ils ont été protégés, ils n'ont rien fait à part d'obéir à Dieu. Ils n'avaient rien à faire, c'était Dieu qui, les, par main forte, comme on dit, à bras étendus, a libéré son peuple. Ce n'est pas le peuple qui a pris les armes et tout ça. Et ils sont arrivés devant la montagne de Dieu, le mont Sinaï, et là est arrivée la loi, la parole, les commandements. Autant, dans sa jeunesse, le peuple hébreu, Dieu laissait faire, il était patient. Une fois que la loi est arrivée, il fallait y travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il fallait qu'ils combattent. Ils ont combattu leurs ennemis avec l'épée. Dieu, ils auraient pu les Amalécites et tout ça, ils auraient pu... Non, il fallait travailler. Et c'est un peu l'image du chrétien, c'est-à-dire la loi est arrivée, la parole de Dieu est arrivée, les commandements de Dieu dans notre cœur sont arrivés. Maintenant, il faut travailler à notre salut. Tout est accompli, mais il faut travailler. Travailler à votre sanctification. Alors, ce n'est pas un fardeau que je vous mets dessus, parce que j'ai quand même une bonne nouvelle. Dans les trois phases, tout est accompli en Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit nous demande expressément d'obéir. On peut lire dans Éphésiens chapitre 2. Au verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Donc c'est le contraire de ce que j'ai dit l'autre jour, puisque j'ai dit la foi sans les œuvres est morte. Attends, il faut lire la suite. Car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus. Pourquoi ? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah mince. Il y en a un qui avait dit que c'était que par la foi que nous étions sauvés, les œuvres, ça comptait plus. Donc ça rejoint ce que disait Jacques, hein. La foi sans les œuvres est morte. Alors quand je dis les œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres, hein. C'est les œuvres préparées d'avance. On pourrait compléter, la foi sans les œuvres préparées d'avance est morte. Je continue. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, c'est nous. Il n'y a pas de juifs ici. Donc on est païens dans la chair. Traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On était hors du parvis. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui des deux qui n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation et l'inimitié. Arrête au 22, non, 14, je continue. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne et avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous ceux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Et par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà le plan. Alors quand il est dit, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et ses dispositions, il est parlé de la justification. C'est-à-dire il a dans sa chair annulé tous les sacrifices d'animaux qu'il fallait tous les ans, tous les jours, même deux fois par jour, faire pour le péché, il l'a fait une fois pour toutes. Il a annulé en fait l'alliance lévitique, mais il n'a pas annulé le reste des commandements, puisqu'il a mis la loi dans notre cœur. Nous sommes tous, donc des deux peuples, il n'en a fait qu'un, je vous avais parlé d'Éphraïm, de Judas, je ne vais pas y revenir. Alors, nous sommes dans le lieu saint pour l'instant. Nous avons ce voile qui a été déchiré, mais qui est quand même fermé, puisque nous n'y sommes pas encore entrés. Vous savez comment ils appellent le lieu très saint, les juifs, les rabbins, les sages d'Israël? Vous savez comment ils s'appellent le lieu très saint? La chambre nuptiale. La chambre nuptiale, ça ne vous rappelle pas quelque chose? On peut lire dans on va relire Éphésiens 4. Je cherche mon passage. On va lire dans Éphésiens 4. Au verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, et de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On est dans un passage, dans ce lieu saint. Je dirais c'est un vestiaire. Quelque part, c'est un vestiaire où il faut se dévêtir de notre vieille nature et se revêtir de la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité, que produit la parole. Pourquoi il faut se dévêtir de notre ancienne nature et se revêtir de la nouvelle nature? Il y en a qui disent « revêtez Christ », la nature de Christ. Il y a plein de passages qui le disent, de revêtir Christ. Parce que on doit rentrer dans la, le passage, vous le lisez, la salle des noces ou la chambre nuptiale. La salle des noces, on ne peut pas y rentrer sans quoi? Sans avoir une belle robe, une belle tunique. Parce que si vous rentrez avec votre ancienne nature, vous ressortez avec un coup de pied dans le derrière. Le lieu saint, c'est aussi la parabole des 10 vierges. Vous avez le chandelier qui est là avec de l'huile. Vous êtes en attente de l'époux, en attente que le rideau s'ouvre. Si vous manquez d'huile, la porte sera fermée. Je cherche toujours mon passage que je ne trouve pas. La famille chrétienne. Ah bah si, il est là. Au Éphésiens 5, au verset 25. Vous le connaissez tous. Surtout les hommes, ils connaissent. Éphésiens 5, au verset 25. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comment on se sanctifie? Purifié par l'eau. Tiens, ça c'est l'autel des ablutions, la cuve des ablutions. Et par la parole. C'est la parole qui nous sanctifie. Je l'ai déjà dit. Pas devenir lourd, mais je l'ai déjà dit. C'est la parole qui sanctifie. Et pour être sanctifié par la parole, il faut l'ouvrir. Alors, ce n'est pas que je suis en train de vous dire lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, mais quand même. Parce que si tu ne lis pas la parole, et si tu ne pries pas, tu peux toujours attendre que le voile s'ouvre. Tu risques de te retrouver, il y a un passage qui dit « ne soyez pas trouvés nus ». C'est que tu t'es dépouillé de l'ancienne nature puisque tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Mais as-tu revêtu la robe de noces? As-tu revêtu cette robe? Voilà ce que je voulais partager. Nous allons donc arriver au lieu très saint. Et ça, c'est à venir. Et c'est notre glorieuse espérance. Vous savez que la vie ne s'arrête pas ici. Enfin, j'espère. Que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour notre salut. Mais c'est le premier ressuscité d'entre les frères. Et il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire, nous sommes appelés à ressusciter. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. De toute façon, tout le monde va ressusciter. Mais il y en a qui ressusciteront pour le jugement, c'est la deuxième résurrection. Et ceux qui ressusciteront à la première résurrection, c'est-à-dire avec ceux qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, c'est ce que dit dans 1 Thessaloniciens, ceux qui seront vivants, ceux qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur, ne devanceront pas ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont morts ressusciteront. Donc c'est la glorieuse espérance, c'est la résurrection des morts. Notre vie, c'est vraiment notre résurrection et la venue de Jésus. Et quand je parle de résurrection, je parle vraiment de résurrection. Je parle de corps terrestre qui sera changé, qui sera un corps spirituel, mais on reconnaîtra notre corps terrestre. Je vous ai parlé de Jésus quand il est ressuscité. Il passait à travers les murs, mais quand même, il mangeait avec ses disciples. On pouvait lui mettre les doigts dans ses blessures. C'était son corps terrestre quand même. Mais un corps céleste, puisque de temps en temps, personne ne le reconnaissait. Donc la résurrection fait partie du salut. La résurrection des morts fait partie du salut. C'est la dernière étape du salut. J'aurais plein de passages à dire au niveau de la résurrection, mais là c'est pareil. Nous sommes dépouillés de notre ancienne nature, nous revêtons la nouvelle nature en vue de la résurrection. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, comme disait quelqu'un, c'est Paul qui le disait, je ne sais plus dans quel épître, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. La résurrection de Jésus, c'est pas du folklore. C'est partie prenante du salut. Il n'y aurait eu que la croix. C'est le sacrifice de Pessah. Mais notre foi aurait été vaine. Notre foi est active parce qu'il est ressuscité des morts et il a vaincu la mort. Et nous aussi, nous sommes appelés à vaincre la mort. On mourra, peut-être. Mais c'est qu'un état transitoire. Comme dit la Bible, on s'endormira. Mais dans la glorieuse espérance de notre résurrection. Et la résurrection, c'est quand ? C'est à la dernière trompette. La fête des trompettes, vous avez vu le cor, le chauffard. On sera réveillé au son du cor pour être dans le lieu très saint avec Dieu pour les noces de l'agneau. Ceux qui seront encore vivants, au son du cor, ils seront changés un instant et iront aussi aux noces de l'agneau. Voilà, le but ultime de Dieu, c'est nous faire venir dans le lieu très saint, en sa présence. Et on va lire dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Une fois de plus, je suis lourd, la sanctification est faite par la parole de Dieu. C'est qui la parole de Dieu? C'est ce livre? Non, on est d'accord. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas un concept spirituel. Il faut aussi lire ce livre. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je vous laisse lire la suite. Et pour feuille de route, je peux vous donner le psaume 51. Je terminerai par ce psaume, mais aussi par un passage dans 1 Corinthiens. Le psaume 51, c'est un psaume qui est un peu spécial. Il a été écrit par David, le roi David, après avoir péché avec Bathsheba. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Au niveau sanctification, là, pas terrible. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, selon tes crimes, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à quoi? À la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les os que tu as brisés seront dans les graisses. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Et là, c'est un passage très important. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai les voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste, des sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tiens, j'ai entendu ça ce matin. Un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. Répands par ta faveur les bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des troupeaux sur ton autel. Tu n'agrées pas d'holocauste. Le seul sacrifice agréable, c'est un esprit brisé, un cœur repentant. Un cœur convaincu de péché, un cœur repentant. Voilà le secret de David. Et il sait que lui, il ne pourra jamais se créer un cœur pur. Si vous essayez de vous sanctifier, je parlais de sanctification, si la sanctification, c'est vous qui y travaillez par vous-même et vos propres forces, vous perdez votre temps. La seule chose que vous devez faire, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Lui vous conduit dans la conviction de péché, dans la sanctification. Il vous enseigne ce qu'il aura appris de Jésus. Crée en moi un cœur pur, mais aussi un esprit bien disposé. Il y a un autre passage qui dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas nous qui faisons le vouloir et le faire. Ce n'est pas nous qui éclairons les yeux de notre cœur quand on reçoit la parole. La repentance, c'est un don de Dieu. Et on va finir par Corinthiens, vous le connaissez tous, 1 Corinthiens 1:30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, mais aussi justice, mais aussi sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il a été fait sagesse. Vous savez ce que c'est que la sagesse ? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais elle est en Jésus-Christ. Il a été fait pour nous aussi justice, sa justification, sanctification. Si on essaye de se sanctifier par nous-mêmes, c'est que de la religiosité. Si on le fait par nous-mêmes, c'est bien, on a un cœur bien disposé, mais c'est en Jésus-Christ que la sanctification a lieu. C'est lui qui nous lave de tout péché. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'aurais presque envie de remettre la vidéo. Tu peux la remettre, David ? On va finir par ça.